Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Gaël Archimbault. Bonjour Gaël.
Bonjour Yannick.
Quel plaisir de vous recevoir une nouvelle fois depuis des années, régulièrement, chaque fois qu'un livre sort, que vous menez une conférence sur l'histoire de la boule, on a beaucoup de plaisir à vous recevoir parce que vous connaissez vraiment votre sujet sur le bout des doigts et vous êtes vraiment un passionné de cette ville. Je vous qualifierais, moi, d'historien aussi de la boule, même si vous avez eu d'autres activités professionnelles. Mais vous êtes historien par passion et vous faites un travail de bibliothécaire, de documentaliste, de journaliste, d'enquêteur, de fin limier. Retrouver des documents d'archives, se pencher sur... Vous êtes deux comme ça dans notre ville à vraiment maîtriser ça. Il y a Bernard Berton hein, pour Escoublac et puis vous. Gaël Archimbault. Vous venez de publier La Baule et l'automobile. Nouvelle édition, parce que vous avez déjà travaillé sur La Baule et l'automobile. Alors, justement, ça amène à cette première question dans ce livre très passionnant sur l'histoire de La Baule et son union avec l'automobile. Mais en réalité, c'est pas aussi que l'histoire de La Baule, c'est aussi l'histoire de l'automobile. C'est ça qui est très intéressant.
Alors, tout à fait. D'abord, merci Yannick à vous de me recevoir et puis de me permettre de transmettre cette passion, comme vous avez si bien dit. Alors, une passion qui m'a été transmise par mon papa, qui était un amoureux de la boule, qui a lui-même écrit quelques livres. Et puis, en fait, toute cette riche documentation, cette histoire, je la dois aussi à de nombreux amis, de nombreuses personnes qui m'ont soutenu et en me transmettant des documents qui sont passionnants. Alors, c'est un livre d'histoire, oui, c'est l'histoire de la boule, mais alors à travers un fil conducteur qui est l'automobile. Alors c'est un livre qui n'est pas un livre de spécialiste sur l'automobile, c'est pas par ce livre-là qu'on apprendra que telle voiture fait telle cylindrée. Non, c'est plutôt un livre d'histoire avec les personnes, les événements qui ont bâti, qui ont construit l'histoire d'une ville, avec les garages, toutes les personnes qui tournent autour du domaine de l'automobile, et puis des décisions qui ont été prises par différentes municipalités. En 1913, par exemple, c'est anecdotique, mais on se demandait si on devait circuler à gauche ou à droite. Donc le maire de l'époque était défavorable à la circulation à gauche. Enfin voilà, c'est petites scènes, anecdotes, petites histoires. C'est l'histoire de la boule à travers les petites histoires qui font qu'une
ville. Liée à l'automobile, vous avez pris le prisme de l'automobile. C'est pas par hasard que vous avez pris ce prisme de l'automobile. Parce qu'il y a toujours eu des compétitions sportives. La boule a toujours été associée à la belle automobile.
Alors, en effet.
Donc, quand on parlait de la boule, par exemple, dans les magazines, dans les années 50, 60, on disait, il y a des belles automobiles.
Absolument. Et, en effet, la boule doit beaucoup par son passé qui est très riche et qui est quasiment unique, hein, à travers l'automobile. Un passé, lié aussi, au sport, avec les courses sur la plage, le circuit d'Escoublac qui a été érigé après la Seconde Guerre mondiale, mais aussi par l'élégance, ce qui marque une station balnéaire. Alors, les rallyes Paris-La Baule exclusivement féminins, en 1926, il y avait des rallyes exclusivement féminins. Dernièrement, il y a eu le rallye des princesses, mais c'est exactement 1926 qui s'est produit. Et puis les concours d'élégance, les gymkhanas, l'écurie de la Côte d'Amour qui a permis de faire tous les rallyes de la Baule qui se sont déroulés pendant de nombreuses années.
La Baule est une ville qui a aussi été construite dès le départ en prenant en compte la dimension de l'automobile, la place de l'automobile, puisque c'est une ville récente, on a pris des allées assez larges, des avenues assez larges. Si je fais une comparaison, par exemple, avec une station balnéaire qui nous est proche, comme Piriac-sur-Mer, on peut pas dire que Piriac-sur-Mer, le centre, ait été bâti pour l'automobile. Là, c'est pas pratique. Alors que la Baule, oui.
C'est vrai, parce que ce sont à peu près les mêmes... L'automobile et la Baule sont nés en même temps, quasiment à 10 ou 20 ans d'écart. Alors, il y a eu une première circulation qui était la circulation hippomobile, au tout début du XXe siècle. Et puis après, la Baule a vite connu un afflux d'automobilistes. Et puis alors... Surtout, il a fallu que les municipalités s'adaptent, notamment justement avec les 30 Glorieuses, où ça a été l'essor des mobilités, l'appel des vacances, et avec des décisions qui ont été prises, par exemple, d'élargir le front de mer en 2x2 voies, ou alors de bâtir un deuxième pont pour traverser l'étier du Pouliguen. Enfin voilà, donc il y a une histoire parallèle.
D'ailleurs, quand on voit les photos que vous reproduisez, on va prendre des photos couleurs qui datent du début des années 80 sur le front de mer vu de haut, sur le remblai, il y a un côté très californien.
Absolument. Absolument. Bah, c'était.
Et c'est unique en France. On peut retrouver à la promenade des Anglais. Mais à part ça, je ne vois pas d'autres exemples.
C'est absolument vrai. Et en fait, aux Trente Glorieuses, on n'hésitait pas à dire que la Baule était la petite Californie. C'est pas par hasard qu'il y a des immeubles sur le front de mer qui ont des noms qui ressemblent à, enfin, qui rappellent l'Amérique.
Alors, évidemment, dès qu'il y a eu des automobiles, il y a eu forcément des compétitions, des garages. Il y a une petite économie qui s'est développée autour de l'automobile.
Absolument.
Il ne faut jamais employer le mot petit, mais c'est vrai, bon, c'était une modeste économie quand même. Il y a eu une économie.
Bah, il y a eu la multiplication des petits hôtels, je dirais, parce que tous les hôtels faisaient garage. Parce qu'à l'époque, le garage, c'était un endroit où on allait réparer, entretenir son véhicule, mais c'était aussi un endroit où l'on garait sa voiture, parce qu'il y avait très peu de garage, d'abri de voiture. Donc, il y a eu la multiplication de ces petits hôtels qui faisaient hôtel et garage. Et donc, en fait, effectivement, avec une économie, moi, je me souviens très bien avoir parlé avec un monsieur qui a marqué l'histoire des garages de la Baule, il s'appelle Jean Lecoux, et donc il était très très sollicité par les clients de l'Ermitage ou de l'Hôtel Royal, puisque son garage était situé tout près. Alors il touchait à tout. C'était l'automobile, mais les moteurs de bateaux. Enfin voilà, c'était très très varié comme activité.
Ce qui est intéressant dans notre conversation, Gaël Archimbault, je rappelle que vous publiez La Baule et l'automobile, c'est qu'au début de notre conversation, ma première question, je vous ai dit, ce livre est aussi un moyen de se plonger sur l'histoire de l'automobile avec le prisme de La Baule, et vous m'avez répondu oui et non, c'est l'histoire de La Baule avec le prisme de l'automobile. Mais quand on voit vraiment ce livre, il y a le code de la route, il y a des reproductions, il y a les premières deux chevaux, il y a... Donc c'est aussi l'histoire de l'automobile, ces factures automobiles de l'époque, elles auraient été valables à Clermont-Ferrand ou à Strasbourg, de la même façon.
C'est vrai, en fait, c'est quasiment le patrimoine.
Est-ce que vous aimez l'automobile ?
Oui, absolument. J'aime quelques voitures. J'ai quelques voitures de collection, alors qu'ils sont des voitures populaires. Mais oui, j'aime les belles automobiles, les automobiles contemporaines. Je suis d'une génération qui a grandi avec l'automobile.
Oui, je vous ai posé cette question, vous avez compris pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, l'automobile n'est pas aimée. C'est la mal-aimée de notre civilisation.
Oui, mais elle est indispensable. C'est quand même le meilleur moyen que l'on a pour se déplacer. D'un point à l'autre. Alors après, il y a un autre débat qui est par rapport à l'énergie qui peut être employée. Mais je ne pense pas que l'automobile soit prêt à disparaître.
Il n'y a rien sur l'automobile électrique.
Alors,
dans votre livre. Pour quelle raison ?
Alors, parce que c'est un livre sur le passé. Même si je n'ai absolument aucune nostalgie du passé, c'est un livre sur le passé. Et donc, oui, alors il y a eu effectivement aussi, il y a eu aussi des navettes électriques. Il y avait un petit train qui, dans les années juste avant la Seconde Guerre.
Oui, je parle de la modernité.
Ah voilà.
Des voitures électriques.
Alors, on n'en est qu'au début. Alors, dans les voitures électriques. En fait, il y a le moteur qui est électrique. Après, je crois que la bonne invention, enfin la bonne technique, ça va être de trouver l'autonomie qui permet de faire fonctionner le moteur électrique. Voilà,
parce que pas attendre une heure sur l'aire d'autoroute.
Parce que en fait, c'est pas le moteur électrique par lui-même parce que c'est un moteur qui réagit très très vite avec un très bon rendement. C'est plutôt le nombre de batteries ou alors d'avoir un moyen qui permette de produire l'électricité à bord. Par exemple, je pense à la pile à combustible avec l'hydrogène. Vous savez, les moteurs de paquebots qui sont construits à Saint-Nazaire, ce sont des moteurs électriques. Alors, une électricité qui est fournie par des générateurs diesel, mais ce sont des moteurs électriques.
Oui, mais enfin, c'est quand même fourni par du diesel. Donc,
absolument. Alors le tout, c'est de
la queue, là.
Alors le tout, ce sera de trouver une autre énergie, peut-être avec le gaz ou même l'hydrogène, comme pour l'automobile. Mais ce sont déjà des moteurs électriques. Ce que je voulais dire, c'est que le moteur électrique est un très bon moteur.
Alors, il y a deux chapitres qui m'intéressent. Il y a la partie circuit d'Escoubla, qui est la partie la plage et l'automobile et les grands prix sur la plage. Faut rappeler qu'à une époque, il y a eu des grands prix automobiles sur la plage de la Baule.
Ah ouais. Et on doit ça notamment à François André en 1924. Alors, nous sommes un an après les premiers 24 heures du Mans. Et c'est une idée qu'a eu François André de faire un grand prix après les 24 heures du Mans suite à des courses qui ont eu lieu sur la plage en 1919, réalisées par les Américains qui étaient basés à Saint-Nazaire. Donc ça a donné l'idée de faire des courses sur la plage et il y a eu 10 grands prix entre 1924 et 1938. Et tous les grands pilotes de l'époque venaient sur la plage avec les grands constructeurs, Bugatti, j'en passe. Et alors, même tragique destin, je dirais, parce que en 1939, il n'y a pas eu de grand prix, parce que le grand prix était prévu le 3 septembre, le jour de la déclaration de guerre. Mais il faut savoir que le 18 août 1939, Jean Bugatti, qui était le fils d'Ettore Bugatti, a voulu faire un essai privé à côté de ses usines à Strasbourg et s'est tué accidentellement en invitant un cycliste dans le but de régler la voiture pour le Grand Prix de la Baule. En fait, c'est un tragique destin parce que Jean Bugatti est décédé pour un Grand Prix 3 semaines auparavant qui n'aura jamais eu lieu.
Et vous publiez même ce programme prévu pour 1939.
C'est ça.
La semaine de l'automobile. Voilà, c'est ce que je... Ce que je cherchais, il y a eu de nombreuses photos de ces automobiles sur la plage. Alors, et ensuite, il y avait le circuit d'Escoublac.
Alors, après la Seconde Guerre mondiale, effectivement, pour plein de raisons, la municipalité de l'époque a voulu quand même prolonger cette histoire de course automobile et a décidé de réaliser un circuit automobile autour de l'aérodrome avec quelques traces qui existent encore actuellement, cette fameuse grande ligne droite à la sortie d'Escoublac qui permet d'aller vers l'Immaculée. Et c'était la ligne droite où avaient lieu les départs. Et il y a eu 3 grands prix en 1952, 53 et 54. Un fameux grand prix en 1952. Donc, dont nous allons fêter les 70 ans au mois d'août, avec la finale des Grands Prix de France de Formule 2. À l'époque, il n'y avait pas de Formule 1, c'était Formule 2, avec la victoire d'Ascari, champion du monde sur Ferrari, et Ferrari place ses trois premières voitures aux trois premières places.
On voit les coupures de presse de l'époque. Tous les as internationaux du volant au Grand Prix de France à la Baule, on s'aperçoit que c'était vraiment un prix très médiatisé nationalement.
Ah, mais tous les grands pilotes étaient là. Je parle de Trintignant, Manzone, Louis Rosier, Ascari.
Pourquoi l'avoir abandonné ?
Alors, le Grand Prix les Grands Prix ont cessé à Escoublac en 1955, après le tragique accident qui a eu lieu aux 24 heures du Mans, qui a fait plus de 80 et quelques morts. Et donc, il n'y a pas eu de course automobile en 1955. Et après, bah, écoutez, pourquoi il n'y a pas eu en 56 ? Peut-être que...
Non, on n'était pas là.
Ouais, on n'était pas là, voilà.
Pour le savoir.
C'est ça.
C'est l'issue de secours. Hein. Alors, il y a même eu des films au cinéma avec pas n'importe quel acteur. Je vois une affiche de film qui a été tournée finalement... à l'occasion d'un de ces grands prix, c'est ça?
Alors, c'est très intéressant ce que vous me dites là.
Casse-cou, parce que... mademoiselle.
Absolument.
Alors, il y a des acteurs, évidemment, que des gens d'une autre génération ne pourront pas connaître, mais c'était quand même le top du top. Hein. Pierre Mondy, il y a Jacqueline Joubert, il y a le fameux Raymond Bussière, Marthe Mercadier, Albert Préjean. C'était des stars hein, du cinéma à l'époque. Le film s'appelle Casse-cou, mademoiselle.
Oui, alors ça, je suis très très content que vous me permettiez de parler de cela, parce que Le film, le Grand Prix de 1954, a servi de fond d'histoire pour un scénario d'un film qui effectivement s'appelle Casse-cou Mademoiselle. Il y a une petite dizaine d'années, Marthe Mercadier était venue à la Baule au rendez-vous des écrivains à Atlantia, et j'avais pu m'entretenir avec elle. Elle se souvenait très bien de ce film-là. Elle avait logé sur le front de mer dans l'immeuble pendant un mois, le Splendide. Elle m'avait parlé. Elle avait un souvenir très ému de ce film. Et je suis très content que vous me parliez de ça, parce que en fait, à l'occasion des Journées du Patrimoine, donc 17 et 18 septembre, la municipalité de La Baule, avec l'adjointe à la culture, Madame Filloux, a réussi, et le cinéma Gostrim, Monsieur Molière, a réussi, ils ont réussi tous les deux à retrouver des traces de ce film-là, et qui était un film en déshérence, grâce à la recherche de Monsieur Molière, et il va être publié lors des Journées du Patrimoine au cinéma. Il va être présenté, présenté aux Journées du Patrimoine au cinéma Gostrim, à des horaires que je ne connais pas encore, mais je trouve que ça va être une belle manière de mettre en avant le patrimoine baulois à travers ce film, parce qu'on verra sûrement comment était La Baule en 1954.
Il y a plusieurs visions de l'automobile qui s'opposent aujourd'hui. Il y a la vision un peu passéiste, j'allais dire à la Clint Eastwood dans Gran Torino, c'est-à-dire que l'automobile, c'est aussi un lieu de vie, c'est un lieu de présentation, c'est le reflet d'une personnalité. On personnalise, on achète un beau modèle, on va se promener avec, voilà, c'est ça. La vision ringarde, comme diraient peut-être certains. Puis il y a la vision très très actuelle. La voiture, c'est juste quatre roues qui servent à se déplacer d'un point A à un point B, peu importe qu'il y ait n'importe quoi à l'intérieur, que ce soit le plus sobre possible, que si on met une batterie, on branche et c'est terminé. C'est quoi l'automobile pour vous, entre ces deux extrêmes?
Alors justement, vous savez, il y a toujours des mouvements de balancier. Quand un balancier est parti à un endroit, il retourne vers l'autre à une grande vitesse. Je pense que la réalité, elle est au milieu. Alors, je ne fais pas de langue de bois quand je dis ça. Mais effectivement, on ne peut pas se retrouver dans deux extrêmes qui ont des visions totalement différentes et opposées.
Vous avez parlé de la voiture électrique. Il y aura l'interdiction de vente des voitures thermiques, hein, dans quelques années, neuves pour les constructeurs.
2035, il me semble.
Voilà, c'est ça, 2035. Sachant que les voitures à essence vont continuer encore de rouler et d'être sur les routes, ce qui va évidemment provoquer une hausse du marché de l'occasion de la voiture thermique traditionnelle en 2036. Les gens qui vont vouloir faire des longues distances, peut-être que la technologie ne va pas. Qu'en pensez-vous de ce débat?
Alors, je suis pas un spécialiste. Moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, l'automobile, on aura toujours obligation de nécessité, de se déplacer. 2035 est peut-être une date un peu ambitieuse, parce que
courte.
Et derrière ça, faut penser quand même qu'il y a des industries, des hommes et des femmes qui travaillent, qu'il va falloir recycler, réadapter. Moi, j'ai quand même toujours confiance aux idées nouvelles, parce que, vous voyez, c'était une révolution il y a 150 ans, après la machine à vapeur, de trouver le moteur thermique. Bon, pourquoi pas un autre mode d'énergie, mais il faut peut-être un peu de temps au temps, mais je suis confiant dans la capacité que nous avons tous à nous adapter.
Est-ce que vous n'êtes pas méfiant face aux interdictions? Quand quelque chose doit naturellement remplacer autre chose, il n'y a pas besoin d'avoir une interdiction, ça se fait naturellement. Il n'y a pas eu de date limite et d'interdiction à partir de telle date du téléphone avec le fil que l'on branche. Mmh. Eh ben, c'est le marché qui a décidé, c'est les consommateurs qui ont pris le téléphone sans fil et qui se sont débarrassés de leur téléphone avec fil.
C'est ça.
S'il y a une interdiction de voiture thermique, c'est qu'il y a un manque de confiance de nos dirigeants politiques. Ils vont se dire, ça veut dire qu'ils savent déjà dans leur inconscient que la voiture thermique, c'est quand même mieux que la voiture électrique. Sinon, ils n'interdiraient pas. Si c'était mieux, on irait tous vers l'électrique.
Absolument. Mais alors après, c'est un problème d'offre et de demande. Absolument, mais je partage votre point de vue. Peut-être que nous sommes vraiment encore qu'à l'aube d'une transition et que, enfin, chacun se cherche, quoi. Je mettrais ça comme ça. Alors, après, effectivement, je suis pas politicien, mais il faut peut-être sans doute une échéance pour se fixer un objectif.
Le marché lui-même.
Mais le marché lui-même
l'homme,
l'offre.
L'humain amène à l'échéance. Je ne vous demande pas si vous êtes venu en voiture électrique ce matin, Gaël Archin. Ouais.
Non, je suis venu avec ma voiture personnelle, qui était une Polo diesel.
Ah ben c'est très bien, voilà. Ça roule très bien, voilà. La boule et l'automobile, c'est la nouvelle édition du livre de Gaël Archimbon. On l'a pas cité, je vais faire quand même, la préface est de Jean-Pierre Beltoise.
Oui, parce que Jean-Pierre Beltoise, alors je suis très heureux, c'est une réédition, un livre qui avait été écrit en 2009, mais Jean-Pierre Beltoise, que j'avais connu, Jean-Pierre Beltoise m'avait fait la gentillesse d'écrire cette préface, et j'ai contacté donc les enfants, Anthony et Julien Beltoise, et Anthony Beltoise était présent au mois d'avril, lorsqu'on a rendu hommage à son papa en inaugurant une avenue, et je suis très heureux qu'il m'ait permis de republier cette préface, parce qu'elle est très émouvante, il faut presque la relire deux fois.
Oui, vous avez l'autorisation de son fils hein, pour
Absolument.
Publier cette
oui, oui.
préface,
qui est un homme
qui
adorable.
Avait été écrite en 2009. Voilà. Voilà, c'est une occasion aussi de lui rendre hommage, Jean-Pierre Beltoise. Merci Gaël Archimbaud, La boule et l'automobile, le livre de Gaël Archimbaud est publié par Gaël Archimbaud. On peut le retrouver. Il est magnifique. Hein.
Merci.
Très belle couverture, très cartonnée, très beau livre de collection. Les photos, la reproduction des photos. Vous les avez trouvées où toutes ces photos?
Alors beaucoup de personnes m'ont aidé en me prêtant leurs documents. Et puis après, il y a quelques documents personnels quand même que je possède. Mais je dois beaucoup à ce réseau qui m'a aidé.
Ah, bah,
et en fait, très beau livre. Je suis très heureux de citer La Mouette Communication, là, dont leurs bureaux sont à La Baule. Parce que c'est eux qui m'ont imprimé ce livre.
C'était un journal, hein, à une certaine
Absolument.
Époque.
Absolument. Ouais, ouais, ouais.
Il y a une reproduction dans les, je crois, de La Mouette.
Absolument.
Avec leur petit slogan ouais. publicitaire, tout le monde lit La Mouette.
Alors, anecdotique, mais bilan carbone, extraordinaire. Livre conçu à La Baule. Et réalisé à La Baule, imprimé dans la région, vendu localement.
Voilà.
Bilan carbone, top.
Voilà. Merci Gaël Archimbaud. Bilan carbone aussi pour cette émission. Vous habitez pas très loin, voilà. Donc là aussi, on a tout. La Baule, on le trouve partout.
De Saint-Nazaire à Guérande.
De Saint-Nazaire.
Dans toute la presqu'île.
Surtout donc de Saint-Nazaire au Croisic.
Oui,
hein,
absolument.
En montant par Guérande. Vous demandez le livre de Gaël Archimbaud, La Baule et l'automobile. Merci.
Merci à vous Yannick.